La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
Une fête, une véritable fête qui a dépassé toutes les espérances. Des milliers et des milliers de Portugais dans les rues de Lisbonne, des militaires fraternisant avec la foule, des agents de police réglant la circulation avec un œil rouge, des hommes pleurant, chantant, dansant. Il fallait être à Lisbonne ce 1er mai pour comprendre ce qu'un peuple peut ressentir au contact de la liberté retrouvée. Lisbonne n'est qu'une immense kermesse sous le soleil où jeunes et moins jeunes se sont tous retrouvés pour chanter cette Vila Morena, une chanson devenue l'hymne du Portugal libéré.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
Nous sommes le 1er mai 1974 à Lisbonne, au Portugal, alors que des centaines de milliers de personnes défilent en chantant Grandola Vila Morena dans les rues de la capitale. Les opposants historiques à la dictature salazariste s'apprêtent à prendre la parole face à la foule. Mario Soares, le socialiste, ou encore Alvaro Cunha, le communiste, sont rentrés au pays dans les jours qui ont suivi le coup d'État du 25 avril, quand de jeunes capitaines ont à la fois renversé le régime autoritaire en place depuis 1933 et précipité la fin du dernier empire colonial européen en Afrique. Alors que la chanson de José Afonso retentit dans les cortèges, la révolution des œillets redonne espoir à toutes celles et ceux qui avaient fui leur pays ou qui étaient restés au Portugal pour se battre à tout prix. Après des décennies de manifestations interdites, les Portugaises et les Portugais sont dans la rue pour affirmer que c'est le peuple qui commande. Et c'est le titre du livre de notre invité historien Victor Pereira aux éditions du Détour. Bonjour Victor.
Bonjour.
Pereira.
Bonjour.
Et bienvenue dans la
Merci.
Marche du Monde. Comment faut-il imaginer cette grande manifestation du 1er mai à Lisbonne, quelques jours seulement, à peine après la chute de la dictature salazariste ?
Il faut l'imaginer comme le reporter la présente, c'est-à-dire oui. une joie immense,
oui.
une libération des corps, des cœurs et des âmes. Pour beaucoup, c'était inespéré. Quelques jours auparavant, ils ne pouvaient pas penser qu'ils pourraient être dans la rue si nombreux, avec des banderoles appelant à la fin des guerres coloniales, à la démocratie, voire au socialisme.
En chantant.
En chantant, en pleurant, comme le disent certains, et entendre, donc dans ce stade, qui va devenir le stade 1er mai par la suite, Alvaro Cunha, Mario Soares, des militaires parler de la démocratie qu'il faut construire, et parler d'un monde meilleur ou d'un Portugal meilleur, débarrassé de la dictature et de la guerre coloniale.
Que représente cette manifestation et qu'est-ce qu'elle signifie pour l'historien que vous êtes, Victor Pereira, et qui vous penchez sur ce processus révolutionnaire ?
Parce que ça confirme déjà une chose qu'on voit dès le 25 avril, c'est qu'au début, le 25 avril, c'est un coup d'État militaire. Et quand les militaires, qui certes veulent installer la démocratie au Portugal, pensent à ce coup d'État et l'organisent, ils ne pensent pas une seule seconde que le peuple va sortir dans la rue. Et cela va jouer sur le cours de cette journée, donc ça va transformer ce coup d'État en révolution. Et le 1er mai, c'est la confirmation de cela. Le peuple veut prendre le pouvoir, ne veut pas désormais laisser des militaires gouverner, même s'ils sont plutôt favorables à ces militaires qui viennent d'organiser ce coup d'État. Et dès le 1er mai, ils sont dans la rue. Ils étaient aussi dans la rue les jours précédents. Et dès le 2 mai, partout dans le pays, il y a un mouvement de grève qui exige des meilleurs salaires, des droits, l'épuration, etc. Donc, on a souvent présenté le peuple portugais comme un peuple obéissant, apathique, qui pendant 48 ans tolère, accepte une dictature donc, dirigée pendant 36 ans par Salazar, puis par Marcelo Caetano. Et là, le peuple sort dans la rue et il va y rester longtemps.
L'image d'Épinal de cette révolution, c'est son pacifisme, c'est l'œillet rouge offert par une serveuse de restaurant à un soldat, c'est une des histoires qu'on raconte. Ce sont ces photos de ces jeunes capitaines craquant la fleur au fusil. Et pourtant, Victor Pereira, la tension est immense. Personne ne peut dire à l'époque ce qui va se passer. Est-ce que le Portugal aurait pu basculer dans une guerre civile entre ceux d'un côté qui soutiennent ce mouvement des forces armées des jeunes officiers, le MFA, et ceux qui restent fidèles au gouvernement de Marcelo Caetano, qui est le successeur du dictateur Antonio Oliveira Salazar depuis 1968.
Quand Otelo Salazar Carvalho, donc celui qui va organiser en moins d'un mois le coup d'État, quand Otelo pense organiser le coup d'État, d'une part, il commence à le préparer juste après un premier échec d'une tentative de coup d'État qui a lieu le 16 mars 1974, qui est un échec retentissant, mais Otelo va se saisir de cet échec pour comprendre ce qu'il faut modifier et comprendre comment le régime se défend. Et il y a un long historique depuis les années 20 de tentatives de coup d'État, soit militaires, soit civiles, soit militaires et civiles, qui ont tous échoué. Donc Otelo, quand il l'organise, évidemment, le plus probable, c'est presque que cela échoue. Mais néanmoins, Otelo, enfin stratège, il va vite comprendre sur quelle force il peut compter, sur quelle force il ne peut pas compter, donc comment essayer de les annuler. Et il obtient la neutralité de certaines forces. Mais quand ils sortent les officiers et les soldats qui ont accepté de rejoindre ce mouvement, au péril de leur vie, au péril de leur carrière, au péril de la prison, ils pensent que ça va être beaucoup plus difficile. Ils pensent qu'ils vont trouver des résistances. Ils ne s'attendent pas vraiment à ce qui s'est passé dans la matinée du 25 avril. Plusieurs troupes sont envoyées pour arrêter le mouvement. Et les soldats, quand ils sont en face à face avec les troupes du MFA, vont soit désobéir aux ordres, on leur demande de tirer, ils désobéissent. Certains repartent, ou soit ils vont rejoindre les insurgés. Et un des éléments qui va notamment jouer dans ces changements de position et cette désobéissance, c'est les militaires, les soldats à qui on en ordonne de tirer, se rendent compte que la population est du côté des insurgés et pas de leur côté.
Et dans ce retournement des militaires, il y a notamment beaucoup de jeunes militaires et plus largement, cela fait écho à l'état d'esprit d'une jeunesse portugaise qui prend la parole, qui enfin peut contester, qui va contester librement lors de cette manifestation du 1er mai. Cette dictature très très longue, la jeunesse n'a jamais connu autre chose que ce pouvoir autoritaire. Quelles sont réellement les principales raisons de la contestation, notamment celle que l'on entend le 1er mai dans la rue, quelques jours après ce coup d'État?
Cette jeunesse, et notamment la jeunesse masculine, c'est pas seulement la dictature dont elle veut la fin de la dictature, mais elle veut aussi la fin des guerres coloniales. Ces guerres coloniales, ou guerres d'indépendance, qui ont commencé en Angola à partir de 1961, sont étendues à la Guinée en 1963, puis au Mozambique en 1964, ont impliqué que tous les jeunes hommes ont dû faire un service militaire qui, à partir de 1968, dure 4 ans.
C'est énorme.
Exactement. 2 ans de formation, 2 ans dans les colonies, et où on peut, dans ces colonies, devoir tuer, devoir blesser, pouvoir être tué, pouvoir être blessé, blessé physiquement, mais aussi blessé psychologiquement. Beaucoup de soldats portugais vont revenir ensuite dans leur pays avec des traumatismes psychiques qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette jeunesse, elle n'en peut plus de... comme seul horizon cette guerre, comme seul horizon cette dictature, comme seul horizon cette misère ou cette difficulté à vivre, ce qui fait que beaucoup de jeunes et moins jeunes Portugais vont quitter le Portugal. Il y a entre 1960 et 1974 environ 1,4 million de Portugais qui émigrent. La grande majorité, 900 000, viennent en France, parfois irrégulièrement. Et donc, pour cette jeunesse et même ceux qui sont moins jeunes, l'horizon est bouché avec cette dictature et donc il faut y mettre fin. Et c'est pour ça qu'ils sont si heureux le 25 avril et le 1er mai.
C'est l'occasion d'ailleurs de s'interroger sur ce que pouvait être le salazarisme et la façon dont Salazar et ensuite Caetano, mais comment le salazarisme a façonné cette société portugaise. Vous nous rappelez que plus de 10% de la population portugaise s'est exilée, alors que c'est un petit pays de 9 millions d'habitants, principalement rural. À quoi ça ressemble finalement ce Portugal à l'aube des années 70?
Alors, c'est un Portugal à l'aube des années 70 qui change beaucoup, parce qu'il y a l'émigration, parce qu'il y a les guerres, parce qu'il y a l'exode rural et les gens qui viennent en ville. Mais le Portugal tel que chéri par Salazar, que Salazar a voulu protéger, c'est un Portugal rural. On vit à la campagne, on est catholique, conservateur, pratiquant. On vit souvent sans savoir lire et écrire.
C'est ça, il y a beaucoup d'analphabètes.
Exactement. On lit dans un pays où il y a la censure, où le Portugal est présenté comme dirigé par Salazar comme le père de la nation portugaise et avec des tuteurs qui sont notamment le curé ou l'instituteur ou l'institutrice. Et donc on vient dans un pays sans liberté et on vit dans un pays où on a peur. On a peur de parler librement parce qu'on a peur qu'on son voisin, que peut-être qu'un membre de sa famille vous dénonce pour avoir critiqué, peut-être légèrement, mais critiqué Salazar pour avoir dit des mots qui peuvent être vus comme subversifs et avoir peur, notamment dans les usines, de protester contre les conditions de travail, contre les salaires trop bas, contre l'exploitation pure et crue, notamment pour les femmes. Donc ce pays, on a peur d'être surveillé, d'être dénoncé, d'être arrêté du jour au lendemain, sans aucun jugement, d'être emprisonné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans être présenté à un juge, sans avocat évidemment, d'être soumis à une torture physique ou à partir des années 60, surtout la torture du sommeil. On vous empêche de dormir pendant plusieurs jours pour que vous parliez, pour vous détruire psychologiquement et physiquement. Et donc, c'est ça le Portugal de Salazar. C'est un Portugal inégalitaire, où les pauvres sont voués à rester pauvres, où ils n'ont pas de droits, et où on a peur d'être arrêté de façon totalement arbitraire.
Est-ce que c'est un pays où également, et est-ce que ça fait partie du fondement du salazarisme, où on vous vend le projet colonial ? C'est-à-dire qu'il faut partir aux colonies pour peupler l'Angola, pour peupler la Guinée-Bissau, pour faire fortune peut-être. Qu'est-ce qu'on vous vend ?
Le Portugal s'est doté, a conquis depuis le 15e siècle, à partir de la prise de Ceuta en 1415, un empire en Asie, en Amérique avec le Brésil et en Afrique. Donc l'État nouveau ne va pas créer l'empire, il est déjà là, et il ne va pas non plus créer la propagande coloniale et colonialiste, cette idée que les Portugais ont un empire parce que depuis le 15e siècle, ils ont donné des mondes au monde, cette idée des grandes découvertes. Mais néanmoins, le salazarisme va développer et renforcer cette propagande colonialiste avec cette image notamment que le Portugal n'est pas un petit pays en superposant une carte de l'Europe et une carte du Portugal et de son empire. Et dans les années 50, le Portugal va essayer de envoyer le maximum ou de très nombreux colons blancs avec cette idée que pour conserver. Et dans les années 50, la plupart des empires sont en voie de disparition. Et le Portugal va être à contre-courant de ce qu'on appelle les vents de l'histoire et va essayer d'inciter les Portugais, notamment les Portugais pauvres, à devenir paysans en Angola, au Mozambique. On commence à construire des grands barrages, notamment le plus célèbre, c'est Caborabassa, au Mozambique. Et donc, c'est une propagande qui est, par exemple, n'allez pas en France travailler, mais devenez colon en Afrique pour préserver ce qui est à nous.
Alors, je vous propose, Victor Pereira, et à nos auditeurs, de donner maintenant la parole à deux jeunes femmes engagées contre la dictature, Teresa Tito Moraes et Aurora Rodriguez. Teresa avait 29 ans en 1974 et Aurora 22. Teresa est née dans une famille de démocrates et de résistants anti-salazaristes, puisqu'elle est la fille de Manuel Tito de Moraes, cofondateur en 1964 avec Mario Soares et Francisco Ramos da Costa de l'Action socialiste portugaise, en quelque sorte la jeunesse du Parti socialiste. Tandis que Aurora, vous allez l'entendre, a grandi à la campagne, dans la Lentejo, au sud du Portugal. Alors toutes les deux racontent leur parcours de jeunes filles sous la dictature au micro de notre correspondante Marilyn Darcy.
O meu pai era, quando eu nasci, cantoneiro das estradas.
Mon père, à ma naissance, était cantonnier.
Et a minha mãe trabalhava, trabalho remunerado fora de casa, na maior parte do tempo, embora algumas vezes.
Ma mère était à la maison, mais parfois elle travaillait dans les champs. C'était une vie très modeste, mais on avait l'essentiel. On mangeait tous les jours, et c'était loin d'être le cas pour tout le monde au Portugal.
Y avait-il des références à Salazar chez vous quand vous étiez petite? Est-ce que vos parents en parlaient? Est-ce que on entendait des discours à la radio? Est-ce que vous accompagniez ce qui se passait?
Nós ouvíamos em casa falar de Salazar. Le régime de Salazar.
On entendait parler de Salazar à la maison, du régime de Salazar. La maison était petite. Nous, les enfants, on entendait parler notre père et notre mère de Salazar.
Et aussi les émissions de radio que via à partir de Argel, à partir de Moscou.
On avait aussi les programmes de radio qui étaient faits à Alger et aussi à Moscou. Et ces programmes remettaient en question le régime en totale discordance avec la politique salazariste.
Era politique salazariste.
Aurora, vous avez eu la possibilité d'aller à l'école, d'étudier. Et est-ce qu'on parlait de Salazar à l'école? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir entendu parler du dictateur en place?
Nós cantávamos olhando para o retrato de Salazar e do almirante Américo Tomás, que estava à nossa frente.
On chantait devant le portrait de Salazar et celui de l'amiral Americano Tomás, le président qu'on avait sous les yeux. On chantait l'hymne national et celui de la Mocidade. Ça nous affectait.
C'est quoi la Mocidade, Aurora?
A Mocidade portuguesa era a organização para os jovens e as crianças.
La Mocidade portugaise, c'est l'organisation officielle du salazarisme destinée aux enfants et aux jeunes. Et toute notre éducation primaire était sous cette idéologie. C'était un hommage au salazarisme.
La chance que vous avez eue, c'est vous-même qui le dites, c'est d'avoir rencontré les livres et aussi d'avoir eu la possibilité de continuer vos études.
Il y a deux moments très importants.
Muito importantes. Havia, desde que eu comecei a ler, os livros da Gulbenkian.
J'avais accès, dès que j'ai commencé à lire, aux livres de Gulbenkian.
La Fondation Gulbenkian, qui est une institution culturelle, une fondation culturelle basée à Lisbonne, et qui, effectivement, incitait les gens à se cultiver.
Sim, tinha umas bibliothèques que eram umas carrinhas, itinerantes qui ont de terre en terre. Et eu, desde muito nova,
c'était une bibliothèque itinérante avec une fourgonnette qui passait de village en village. Et dès mon plus jeune âge, peut-être vers 6 ans, je m'y procurais des livres et je n'ai jamais arrêté. Au fur et à mesure que je grandissais, j'évoluais avec les livres. J'ai vraiment beaucoup lu et ça a été décisif dans ma vie, ces lectures.
Mas também eu consegui estudar. Eu iria fazer só até 4 anos de estudo, o ensino básico.
Mas j'ai également pu continuer mes études. J'aurais dû en principe m'arrêter au premier cycle scolaire, à 9 ans. Mas j'ai continué dans une école privée. Et à la fin, j'ai gagné un prix, celui de la meilleure élève. Ça m'a donné la possibilité d'aller étudier au lycée Beja, la capitale régionale d'Alentejo.
Comia em casa dos amigos do meu pai, dos meus pais.
Je déjeunais chez des amis de mes parents et le fils de la maison m'a permis de lire des livres interdits, par exemple sur la guerre du Vietnam. Ça a éveillé une conscience politique plus profonde.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à comprendre que vous n'êtes pas toute seule?
J'avais 15 ans quand je suis rentrée au lycée Béja. La guerre en Afrique venait de commencer. C'était en 1961-1962 en Angola.
Já aquela guerra que
Une guerre qui avait déjà fait beaucoup de morts. Et d'ailleurs, j'étais allée à l'enterrement de plusieurs fiancés de mes amis. C'est là que je découvre qu'il y a d'autres personnes qui veulent en finir avec la guerre en Afrique. Ils ne sont pas d'accord, et pas seulement à cause des morts, c'est aussi parce que c'est une guerre injuste. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que c'était interdit d'en parler et qu'on ne trouvait pas de livres sur les guerres coloniales portugaises.
Sobre a guerra colonial portuguesa. Mas havia livros sobre a guerra do Vietnã.
Mais il y avait des livres qui circulaient sur la guerre du Vietnam menée par les États-Unis d'Amérique au Vietnam. C'était une guerre de même nature. Alors j'ai tout lu sur la guerre du Vietnam et l'impérialisme américain, ainsi que la puissance du racisme et la manière de traiter différemment des gens noirs et blancs.
Isto em 1967, 68, 69. E eu também soube, tomei consciência da guerra
là,
contra a Palestina.
Là, on est dans les années 1967, 68 et 69. J'ai découvert aussi la guerre en Palestine contre les Palestiniens. J'avais 15 ans et ma conscience politique se réveillait, si bien que plus tard, quand je vais rentrer à l'université à Lisbonne, j'écris sur mon sac à dos en grosses lettres
Al-Fatah.
Mais je n'ai pas été inquiétée, parce que je pense que la PID, la police politique, ne savait pas du tout ce que c'était.
C'est une dictature.
Irène Pimentel, historienne portugaise.
Salazar, qui était le ministre des Finances depuis 1928, a été nommé par le président de la République le chef du gouvernement en 1932. Mais ce qu'il a fait, c'est pas seulement diriger le gouvernement, il a fondé un nouveau régime avec une constitution, la constitution de 1933, et le régime est caractérisé dans cette constitution comme un régime autoritaire. Donc c'était une dictature. Et à partir de 33, il a commencé à fonder toutes ces institutions qui lui ont permis de durer beaucoup d'années. Principales institutions, quant à moi, ont été en 33 la direction générale de la censure et la police politique, qui, depuis Salazar, s'est appelée PVDE, Police de Vigilance et Défense de l'État, mais elle a surtout été connue comme PID. Et ce qui a été très important à deux grands niveaux. Au niveau de instiller la peur entre les Portugais en général et la passivité politique. C'était un peu, nous vous menaçons avec notre présence si vous allez faire de la politique. Parce que faire de la politique pendant la dictature, c'était seulement pour le gouvernement et pour la dictature. Donc, il y avait cette omniprésence et omnipotence de la police politique. Donc, les militaires ont combattu pour le régime dans la guerre coloniale. Et ce qui est très important aussi au niveau de la police politique, c'est que c'était elle qui était le service d'information dans les terrains de guerre des forces armées portugaises. Donc, elle travaillait conjointement avec les forces armées.
Il y avait une implication à l'extérieur.
Oui, parce que cette police politique n'était pas seulement à l'intérieur, c'était une police politique d'espionnage et contre-espionnage extérieur. Et à cause de ça, elle avait des relations avec les agences secrètes, par exemple, de la France.
C'était dans les années 62, 1962-63.
Teresa Tito Moraes.
Nous avons commencé à organiser une association d'étudiants pour contrebalancer la mocidade portugaise. C'était obligatoire pour les garçons, un mouvement militariste qui préparait les enfants déjà avec des règles et des normes comme ils iront à l'armée plus tard. C'était un mouvement du régime, un peu fasciste aussi.
Mais vous avez conscience, Teresa, déjà de la nécessité de lutter contre ce régime? Vous en parlez entre vous, entre jeunes, c'est déjà quelque chose de très présent. Vous êtes toute jeune, vous avez 16 ans, vous étudiez, vous êtes en baccalauréat.
Oui, c'est important aussi parce que je viens d'une famille progressiste, républicaine. Dans le sein de la famille, nous avions toujours les valeurs de la démocratie, de la liberté, et aussi l'engagement dans un parti politique. À cette époque-là, le parti organisé, c'était le Parti communiste portugais, et nous avons disons, j'avais un frère et une sœur qui étaient dans le Parti communiste et qui m'ont aussi proposé de faire part du parti.
Est-ce que vous aviez conscience du danger? Est-ce que vous saviez que le fait d'appartenir à une association, le fait d'appartenir clandestinement à un parti politique d'opposition, vous aviez conscience de faire des choses dangereuses?
Oui, j'avais conscience, mais quand on a 16 ans ou 17 ans, la passion pour une cause, c'est une chose très importante. Ça mobilise, ça donne une force et nous sommes conscients de notre dédication à une cause qui va avoir des conséquences d'un avenir plus juste, plus humain, plus joli, parce que ça, c'était vraiment ce qu'on sentait à cette époque-là.
Il y a quelque chose de très présent dans votre vie de jeune fille, notamment parce que vous allez rencontrer votre amoureux, fiancé, puis plus tard mari. Mais autour de vous, on parle beaucoup des guerres coloniales, des colonies et du danger d'aller faire la guerre. C'est quelque chose de très, très important. Il y a des manifestations étudiantes, il y a une mobilisation contre les guerres coloniales.
On luttait pour que les jeunes puissent avoir un avenir sûr. On luttait pour la paix parce qu'on n'était pas d'accord avec la guerre coloniale. Moi, j'étais au lycée, mais mon fiancé, Jaime, il était aux premières années de la faculté de médecine. Il était à l'âge de partir pour le service militaire. Ce n'était pas seulement cette situation qui faisait que c'était dangereux de continuer à vivre au Portugal, c'est surtout parce qu'un fonctionnaire du Parti communiste portugais qui a été arrêté par la police portugaise, la PIDE, il a parlé, il a donné toute l'organisation des étudiants lycéens, universitaires qui faisaient partie du Parti communiste, plus de 400-500 étudiants.
Votre fiancé s'enfuit et puis vous allez essayer de le rejoindre.
Voilà, et mon fiancé, il est parti. Et j'étais l'intention de le rejoindre à Genève. C'est de choisir entre la prison ou la liberté dans un autre pays. C'était vraiment difficile parce que je me suis dirigée à l'aéroport de Portela de Lisbonne pour prendre l'avion de la Suissière. Et c'était exactement le 4 février 1965. Ils ont vu mon nom et ils avaient une liste des personnes qui ne pouvaient pas partir, qui avaient des problèmes avec la police. Ils sont venus très vite pour que l'avion ne part pas. Ils ont mis l'escalier de l'avion, ils ont monté, ils ont ouvert la porte. Quand ils étaient devant moi, ils ont dit « Vous nous accompagnez, vous êtes arrêtés ». J'ai été pendant 2 jours et 2 nuits sans dormir. Tous les 4 heures, de 4 en 4 heures, venait un inspecteur de la police pour me interroger, pour me dire que j'appartiens aux associations des lycées, que j'étais aussi membre du Parti communiste portugais. Et j'ai toujours nié ça. Il m'a fait tomber 2-3 fois du siège où j'étais. J'étais très fatiguée parce que j'ai pas dormi toute la nuit. Et seulement 2 jours après, Je suis allée pour la prison de Caxias. C'était une expérience très intense. J'ai été pendant 3 mois sans être interrogée. 3 mois après, c'était le 27 avril 1965, j'ai entendu m'appeler pour venir à Lisbonne. Et quand on est arrivé au siège, on nous a dit, vos parents sont ici, nous avons sorti avec une caution en argent. J'étais finalement liberté. Après 2 mois, je me suis de nouveau dirigée à l'aéroport de Lisbonne et j'ai suivi voyage pour Genève où Jaime, mon fiancé, était déjà là et nous nous sommes rencontrés.
Quando chego à universidade, no ano letivo de 1969-1970, eu fui à procura
Aurora Rodrigues
de mais pessoas que pensassem como eu.
Quand je suis rentrée à l'université pour l'année 1969-1970, j'ai cherché à rencontrer des gens proches de mes idées.
Eu tinha uma ideia. Eu era contra a guerra, eu era contra as prisões que havia em Portugal. Contre la guerre coloniale.
J'étais contre les prisons au Portugal, contre les guerres coloniales, contre la PIDE, la Police internationale de défense de l'État, organe de répression qui emprisonnait et torturait. J'étais en faveur de la liberté et surtout de l'égalité.
Et je procure desde o início pessoas que fossem como eu. E eu sabia aí, porque como o ambiente era muito convulsivo, havia revolta contra
a Donc, je cherchais des gens avec ce profil et je savais qu'il y en avait. Le contexte était très convulsif avec des révoltes contre le régime salazariste. Je cherchais des gens avec des idées et je les ai trouvés. Des étudiants qui voulaient en finir avec la guerre, avec la domination colonialiste du Portugal sur les pays africains. Des gens qui défendaient les pays africains et voulaient leur indépendance. Mais ces gens réclamaient aussi la liberté d'expression, de pensée et de réunion, car tout ça était interdit.
Il y a un moment très important dans votre manière d'aborder la lutte contre le régime, c'est l'assassinat de votre ami à la faculté, la PIDE, la police politique, s'en prend aux étudiants. Et vous êtes vraiment témoin de ce qui se passe. Et là, effectivement, pour vous, ça bascule à nouveau.
Uma dessas pessoas que eu tinha encontrado na Faculdade de Direito, eram muitos, e um deles chamava-se José António Leitão Ribeiro Santos.
Une des personnes que j'ai rencontrées à la fac de droit s'appelait José António Ribeiro Santos. Le 12 octobre 1972, à la faculté d'économie, il y a eu un meeting. L'amphithéâtre était plein à craquer. J'étais auprès de mes amis de la fac de droit. Parmi eux, Ribeiro Santos. Je suis restée à côté de lui.
Ribeiro Santos, je suis toujours avec lui. E, entretanto, há um PIDE, um agente da PIDE, que entra...
Soudain, un agent de la PIDE a fait irruption dans l'amphithéâtre de la Faculté d'économie de finances et il a tiré sur José António Ribeiro Santos et l'a assassiné. C'est là que j'ai décidé d'adhérer au mouvement des partisans auquel il appartenait. C'était la Fédération des étudiants marxistes-léninistes de la cellule estudiantine du MRPP, le mouvement refondateur du Parti du prolétariat.
Le secteur estudantil d'un parti qui existiu en Portugal, qui est le MRPP, le mouvement réorganisatif du Parti du prolétariat. Cada
partir d'ici, Aurora, vous devenez clandestine et militante dans la clandestinité. Les choses vont devenir de plus en plus compliquées pour vous.
Eu passo a fazer trabalho que é clandestino. Eu trabalhava num restaurante e também à faculdade.
J'ai commencé à agir dans la clandestinité. Je travaillais aussi dans un restaurant et j'allais à l'université pour faire de la propagande. Et je rédigeais des pamphlets contre le régime salazariste qui, à l'époque, était devenu le régime de Caetano. C'est à ce moment-là, en particulier, que j'ai commencé à avoir peur. Je savais qu'un jour, je serais arrêtée. Et je m'étais dit qu'il ne tuerait plus jamais personne à l'abri de mon silence.
Que non irions matar mais ninguém. Com meu silêncio. Fui presa no dia 3 de maio de 1973.
Le 13 mai 1973, j'ai été arrêtée. Ils m'ont emmenée du commissariat de police à la prison politique de la PIDE qui se trouvait à Caxias, une ville proche de Lisbonne. Là, ils m'ont fait examiner par un médecin qui déterminait jusqu'à quel point un individu pouvait supporter la torture. Ils m'ont tapé dessus sans discontinuer. J'ai même perdu connaissance. Mais quand j'ai pu récupérer, ils ont continué à me retaper dessus au même endroit. La principale torture, c'était la privation du sommeil. J'y ai eu droit durant 16 jours et 16 nuits consécutifs sans dormir. Mais j'avais décidé une bonne fois pour toutes que je ne dénoncerais personne.
Et je suis consécutivement 16 jours et 16 nuits sans dormir. Je tinha decidido que não denunciaria ninguém.
Pourquoi la torture principale était le sommeil, la privation?
Irène Pimentel, historienne, spécialiste de la PIDE, la police politique.
Donc la privation, c'est, et c'est étudié, c'est une des plus grandes tortures, privation d'alimentation, privation de socialisation avec d'autres personnes, privation du sommeil et privation du mouvement. Et c'est ça que la police politique faisait. Ce qu'elle voulait surtout, c'était neutraliser le prisonnier pour une future activité politique dans son parti. Parce qu'ils disaient, même si ce n'était pas vrai, qu'ils avaient parlé. Donc, ils avaient confessé. Et parler au Portugal à la police, ça a été presque une trahison. Je parle surtout de l'activité de la police politique dans la dite métropole, qui était le Portugal. Parce que, comme vous savez, il y avait cette notion de Salazar que le Portugal existait de Minho au Timor. Donc, les colonies africaines étaient des provinces d'outre-mer du Portugal. Mais avec le début de la guerre, c'est évident que la police politique, par exemple en métropole, ne voulait pas tuer, parce qu'on était en Europe, dans les terrains de guerre coloniale, la violence était jusqu'à la mort. Et donc, il y a aussi eu des prisons et des camps de concentration, même, dans les colonies, différentes des prisons politiques de la dite métropole. Par exemple, Machava, au Mozambique, São Nicolau, en Angola, Tarrafal, qui était, dès les années 30, a été un camp de concentration à la manière de Dachau, par exemple, où étaient envoyés les communistes et les anarcho-syndicalistes. Elle a été fermée en 54 à cause de l'opinion publique, parce qu'on était en Europe, mais elle a été réouverte en 1961 par le ministère d'Outre-mer pour les prisonniers intellectualisés d'Angola, du Cap-Vert et les prisonniers de la Guinée. Et c'était un camp de concentration qui a existé jusqu'à 1974. À sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grande.
Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de la Marche du Monde, consacrée à la révolution des œillets. Nous nous interrogeons sur le prix payé par les Portugaises, les Portugais et les Africains de l'Empire pour l'avènement de la démocratie et l'indépendance des colonies. Et je remercie vivement nos témoins, Teresa et Aurora, d'avoir partagé avec nous leurs expériences de jeunes femmes sous la dictature. La dernière dictature d'Europe, Victor Pereira, merci d'avoir écouté ce reportage signé Marilyn Darcy avec nos auditeurs. Qu'est-ce que ça nous dit, ces témoignages, de l'importance du rôle des guerres coloniales dans cette révolution portugaise qui vous passionne ?
Beaucoup disent que ces guerres coloniales, c'est le début de la fin de la dictature. Et qu'il y a une expression, un slogan qui énonce « Le 25 avril est né en Afrique ».
Comment on le dit en portugais ?
« O 25 de abril nasceu em África ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces mouvements de libération, à partir de 61, quand ils ont combattu, ils existent un peu auparavant, mais à partir de la lutte armée, à partir de 61, ça a obligé le Portugal à faire ses guerres, à consacrer 40% de son budget à la guerre, à mobiliser toute la jeunesse.
Alors que c'était un pays pauvre.
Qui était un pays extrêmement pauvre, et donc ça a été un poids extrêmement important pour la société portugaise et pour les Portugais et pour les Portugaises, et que donc ça a créé cette contestation au sein de l'armée, cette idée au sein de jeunes officiers que cette guerre était sans fin, que probablement ils ne la gagneraient pas en Angola, au Mozambique, et que probablement ils ne la perdraient pas, sauf peut-être en Guinée, où la situation était beaucoup plus compliquée d'un point de vue militaire. Et en 1973, le PIGC, donc le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, déclare unilatéralement l'indépendance de la Guinée. Et donc ils craignent en Guinée, et ce n'est pas pour rien que Spinola publie un livre qui propose une solution politique, et ce n'est pas pour rien que la plupart des jeunes capitaines qui seront au MFA viennent de combattu en Guinée. Et donc il y a évidemment une origine africaine à cette révolution des œillets.
Alors, ce qui est remarquable, Victor Pereira, dans ce coup d'État du 25 avril, c'est qu'il est mené, vous l'avez rappelé, par de jeunes militaires, mais ils ont pensé le coup d'après, parce que pour une fois, le coup d'État réussit. Alors, cette révolution portugaise, elle donne un espoir à toutes celles et ceux qui vivent sous la dictature d'en sortir avec un projet politique. Et au Portugal, c'est ce qui s'est passé, démocratiser, développer, décoloniser. Et c'est le peuple qui commande, et c'est ainsi que vous avez titré votre livre. Et ce sera ma dernière question, pourquoi avoir choisi ce titre ?
Si vous avez été attentif et que vous comprenez un peu le portugais, on a entendu « Grande de la Vila Morena », et une des strophes de « Grande de la Vila Morena » est « O povo que majordena ». Donc c'est une traduction, c'est le peuple qui commande. Donc évidemment, c'est d'une part un clin d'œil pour cette magnifique chanson, qui était un des signaux lancés à la radio pour dire au MFA « C'est parti, on y va, l'opération virage historique a commencé et elle est irréversible. » Et d'autre part, cette chanson est touchante parce qu'elle est très belle.
Elle est extrêmement émouvante.
Elle est extrêmement belle esthétiquement, je dirais. En plus, moi, elle me touche d'autant plus qu'elle a été enregistrée en France, on le sait rarement. Elle a été enregistrée en France, au château d'Hérouville, dans le Vexin. Et je suis né pas très loin. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire un clin d'œil à cette chanson. Et aussi parce que je voulais, dans le livre, souvent l'histoire du 25 avril, de la Révolution, c'est souvent faite du point de vue des élites. Les élites politiques, Mario Soares, Alvaro Cunha, les leurs tensions, les militaires, le MFA, une histoire diplomatique, comment ça a été un enjeu de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et j'ai voulu replacer ce qui a fait la singularité de cette Révolution. C'est une révolution où le peuple, de façon inattendue, a surgi le 25 avril et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant un an et demi, a participé à la vie politique, s'est engagé localement à occuper des usines, à occuper des terres. Et donc, c'est ça que je voulais restituer.
Merci beaucoup, Victor Pereira. Et j'invite nos auditeurs à lire votre livre passionnant. C'est le peuple qui commande, explique le processus révolutionnaire au Portugal. Et c'est aux éditions du Détour.
Já foi à escola de sacola, um e dois e três, já sabe ler, sabe contar.
Révolution des œillets, la démocratie à quel prix? C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon, Sophie Janin et Marilyn Darcy. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de La Marche du Monde, Facebook et Twitter. Abonnez-vous à notre podcast sur notre appli Pure Radio rubrique Histoire. Cette émission, c'est la vôtre.
Para a guerra morrer ou matar. Os senhores da guerra não matam, mandam matar. Os senhores da guerra não morrem, mandam morrer. A guerra é para quem nunca aprendeu a semear. É para quem só quer mandar matar para roubar. Nossa terra fugiu para a França para não ir morrer na guerra. Soldadinho lindo era o rei da nossa terra. Fugiu para a França para não ir matar na guerra. La 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 la. La la la.